Bonjour à tous. J'aime bien vous regarder, alors je prends le temps de vous regarder. Le Seigneur vous a parlé un peu ce matin? Un peu, beaucoup? Passionnément, à la folie? Ou pas du tout? C'est aussi possible, pas du tout, hein. Alors, on va prendre plaisir à découvrir encore un peu de la parole. Prendre plaisir à nous poser des questions ce matin. Il faut que j'arrive à parler dans le micro. C'est vrai que la mort de Jésus, elle est là pour nous donner une vie nouvelle. Donc je rentre tout de suite dans le sujet. Hein. Je me dis au moins, on arrive tout de suite. Voilà. La mort de Jésus est là pour nous donner une vie nouvelle. Est-ce que nous le croyons? C'est-à-dire que même si finalement du coup on ne répond pas à haute voix, est-ce que rien qu'à l'intérieur de nous, est-ce que l'on croit? La vie de Jésus est là pour nous montrer comment vivre cette vie nouvelle. Donc je répète, la mort de Jésus est là pour nous donner une vie nouvelle et la vie de Jésus est là pour nous montrer comment vivre cette vie nouvelle. C'est pour ça que les évangiles sont un cadeau précieux qu'on a parfois du mal à discerner la profondeur de ce qu'elles révèlent. Mais c'est par étapes, à mesure qu'on creuse, à mesure, elle nous révèle des merveilles. Pour illustrer ce propos, pour comprendre aussi la suite de ce qu'on va voir ce matin, j'aimerais qu'on lise ensemble Philippiens 2, versets 4 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Juste ce passage-là, pour que nous puissions vraiment le comprendre, il est devenu semblable à nous. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus, finalement, c'est pas n'importe qui, c'est le nouvel Adam. Il est venu sans tache, sans faute, dans une communion parfaite qu'il avait déjà avec le Père et qui a continué quand il est venu sur la terre. Et il est venu finalement pour nous ravir au péché et nous amener dans une réconciliation avec Dieu. Et finalement, on se dit, mais c'est super, mais c'est quoi cette réconciliation? Qu'avons-nous obtenu? Dans les faits, c'est quoi cette réconciliation? Il y a cette phrase qui souvent m'a interpellé, c'est Jésus qui va dire « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père ». Il le dit au chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean. Comme ça, ça fait très... Voilà. Et en fait, il le dit dans une circonstance un peu particulière, c'est lorsqu'il se révèle en tant que fils de Dieu, en tant que Messie. C'est lorsqu'il se révèle par rapport à sa mission, et il le dit à la Samaritaine, il va dire des choses extraordinaires, ce qu'elle a du coup a dit tout à l'heure, que des fleuves d'eau vive jailliront. Et lorsque ses disciples viennent le voir, ils lui disent, ben, t'as peut-être un peu faim, tiens, voici, on a acheté un petit frichetis, si tu veux manger un, deux, trois trucs. Et lui, il dit, mais en fait, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et il y a là une révélation complètement surprenante pour les disciples qui se disent « Mais de quoi est-ce qu'il nous parle en fait ?» Et cette phrase-là, elle vient pour illustrer quelque chose qui s'est passé avant, dans Jean chapitre 2, où voici l'histoire. Jésus arrive à un mariage dans la ville de Cana, où sa mère Marie avait été invitée. Il est venu avec ses disciples. Le mariage, vous savez, à cette époque-là, durait non pas une journée ou une journée et demie, mais durait 7 jours. Mais voilà que le vin se met à manquer. On va lire ensemble le chapitre 2 de l'évangile de Jean, versets 3 et 4. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, ou entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors ça va être un peu interactif aussi ce matin. Hein. Donc qui dit à Jésus qu'il manque du vin? Qui s'appelle Très bien. C'est, voilà, je vois aussi, vous êtes aussi fort que les enfants que j'ai au concours biblique. C'est pour voir, voilà. Que lui répond Jésus ? Il lui répond que femme ? Il lui répond, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. Lisons maintenant Luc chapitre 1, versets 30 à 35. On va prendre le temps. Ne crains point, dit l'ange à Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ça nous rappelle un peu aussi du coup l'image de la bannière qu'a présentée du coup notre frère tout à l'heure. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. La question est très simple, est-ce que Marie sait que Jésus est le fils de Dieu ? Lisons ensemble maintenant Jean chapitre 1 versets 49 à 51. C'est bien, il y a un peu de lecture, c'est un peu interactif. Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. » Est-ce que Jésus sait qu'il est le fils de Dieu, le Messie envoyé par Dieu ? C'est interactif, ça. J'ai besoin de vous en fait, là c'est... Oui. Lisons maintenant Jean chapitre 2, verset 5. Nous reprenons l'histoire. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et ce que Marie répond à Jésus. Ça c'est la suite du verset d'avant, où Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, entre moi et toi ? Est-ce que Marie répond à Jésus ? Non. À qui s'adresse-t-elle ? Au serviteur. Lisons la suite, versets 6 et 7 du chapitre 2. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus, à ce moment-là, il voit quelque chose que personne ne voit. Il voit que le Père est en train de travailler. C'est pourquoi Jésus parle. Jésus ne parle pas de manière déconnectée. Il ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Il parle parce qu'il voit le Père agir. Que dit Jésus au serviteur ? Remplissez... Ah non, c'est avant. Merci. Remplissez d'eau ces vases. Est-ce qu'ils lui obéissent ? Oui. Est-ce que quelque chose qui vous interpelle ? Jusqu'au bord. Est-ce que Jésus a demandé de remplir jusqu'au bord ? C'est intéressant, ça. C'est intéressant. En obéissant à Jésus, quelque chose les conduit à obéir jusqu'à ras-bord. Intéressant, ça. Lisons ensuite, versets 8 à 10. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent, ou pour maintenant, dans les différentes versions, traductions. » Est-ce que c'est écrit que Jésus touche l'eau à un seul moment ? Non. Qu'apporte, petite question piège, qu'apportent les serviteurs à l'organisateur du repas ? De l'eau ou du vin ? Allez, qu'ont-ils puisé ? De l'eau. Est-ce qu'ils voyaient déjà le vin au moment où ils ont puisé? Non, mais ils ont obéi. Ne sachant pas forcément ce que Dieu fait, la part des serviteurs était d'obéir au Fils. Donc si Jésus n'a pas touché l'eau, et si Jésus ne fait que ce qu'il voit le Père accomplir, qui a accompli le changement de l'eau en vin? Pas incroyable. Le Père travaille. Ce qui s'est passé au mariage de Cana est le premier signe, la première preuve donnée par Jésus que le Fils ne fait rien que ce qu'il voit faire par le Père et qu'il est bien Fils de Dieu. Car il s'inscrit dans ce que Dieu fait et il montre, il révèle ce que Dieu fait. Le Père et le Fils travaillent ensemble et ils ont amené Marie et les serviteurs à travailler avec eux. Si on décortique un petit peu cela, est-ce que Marie sait quelle est sa place? Oui. Qu'a fait Marie? Elle s'est soumise au Fils de Dieu. Elle a demandé aux serviteurs d'obéir à Jésus. Est-ce que Jésus sait qui il est? Oui. Et qu'a fait Jésus, le Fils de Dieu? Il a donné des instructions aux serviteurs. Est-ce que les serviteurs savent quelle est leur place? Oui. Et qu'ont fait les serviteurs? Ils ont obéi à Jésus. Et qu'a fait Dieu le Père avec l'Esprit Saint? Il a conduit premièrement les serviteurs à remplir les vases jusqu'à ras-bord et il a changé l'eau en vin après que les serviteurs aient obéi au Fils jusqu'au bout. On ne sait pas en détail à quel moment est-ce que l'eau s'est changée en vin et ce n'est pas si important que ça. L'important c'est de savoir si les serviteurs ont obéi jusqu'au bout sans forcément voir l'eau changer en vin. Parce que pour nous c'est important également. Si moi je suis prêt à obéir à ce que Dieu me demande, sans que je ne voie tout, eh bien j'ai l'assurance par la foi que lui, le Père, l'Éternel, lui fait tout. C'est-à-dire qu'il participe avec moi, puisque je participe avec lui. Il est en moi, il fonctionne avec moi, et je m'émerveille comme le Fils s'émerveille de voir le Père faire. Il y a un élément qui est assez intéressant, on peut se dire, mais finalement, du coup, combien de bouteilles de vin, de Bourgogne ou de Beaujolais, ou de, voilà, est-ce que Jésus a rempli? Ou du moins, Dieu a rempli? Eh bien, si on calcule, la totalité des jarres remplies serait entre 470 et 710 litres, ce qui fait l'équivalent de 670 à 1015 bouteilles de 70 centilitres. Est-ce que vous pensez que le vin va manquer? Jésus ne s'arrête pas là. Le cœur du Seigneur, c'est de partager cette nourriture avec nous. Il veut intégrer ses disciples dans la collaboration qu'il a avec le Père. Jésus, continuant à faire non sa volonté, mais celle du Père qu'il a envoyé, parcourt le pays en enseignant le peuple et en guérissant les malades. Un jour, il se rend de l'autre côté du lac de Tibériade, accompagné par une grande foule qui le suivait à cause des malades qui étaient guéris. Dans Jean chapitre 6, versets 5 à 7, que nous lisons, « Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » La question est la suivante. Que veut dire Philippe à travers sa réponse? Mais il dit, les finances sont limitées, on n'a pas assez pour nourrir tout le monde. On est d'accord? Il dit, finalement, il y a un besoin, mais je n'ai pas assez, nous n'avons pas assez pour répondre aux besoins. Est-ce que Philippe a répondu correctement à la question de Jésus, selon ce que Jésus attendait? Non. Mais finalement, Philippe, il a répondu comme nous. Mais Jésus, en fait, il n'a pas demandé avec quoi, il a demandé où. Où achèterons-nous des pains? Il n'a pas dit avec quoi. Il a dit où. Très important ce où. Puis André réagit et parle d'un jeune garçon qui a des pains et des poissons. Combien le jeune garçon a des pains et deux poissons? 5 et 2. Il va falloir réviser un petit peu quand même. Petit calcul de maths simple, est-ce que cela est suffisant pour nourrir une foule entière de plusieurs milliers de personnes? Compliqué. On peut donner une petite miette à chacun, mais ça nourrit pas forcément un homme. Dieu, créateur des mathématiques, est-il limité par les mathématiques? Non. Philippe, il est comme vous et moi. Quand il veut acheter du pain, il va chez le boulanger et il l'achète avec de l'argent. Mais Jésus voulait que Philippe comprenne que c'était à Dieu qu'il fallait acheter des pains pour nourrir cette foule. Et avec quoi? Avec ce qu'ils avaient déjà dans les mains, en y ajoutant la foi, une totale confiance en lui. Si on regarde la suite, chapitre 6, verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. On va lire également ce que Luc raconte, la même histoire, au verset 9, verset 16. Jésus prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Que fait Jésus en premier quand il prend les pains et les poissons? Il rend grâce au Seigneur et il les bénit. Jésus donne combien de pains aux disciples pour qu'ils les distribuent? 5. Combien de poissons? 2. C'est très intéressant ces choses-là. Chapitre 6, versets 12 et 13, on continue la lecture. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Est-ce que les disciples ont obéi à Jésus? Oui. Donc ils ont distribué les 5 pains, les 2 poissons. Y a-t-il juste assez avec Dieu? Ou y a-t-il plus que nécessaire? Plus que nécessaire. Merci aux 12 paniers remplis. Dieu est un bon Père qui prend soin de ses enfants. Jésus, connaissant le cœur du Père, savait que le Père voulait nourrir la foule. Le Fils est alors réjoui de voir que le Père voulait faire travailler les disciples pour qu'ensemble, Père, Fils, Esprit, disciples, ils puissent ensemble faire la volonté de Dieu. En résumé, les disciples sont soumis à Jésus. Le Fils attire l'attention des disciples sur le besoin que le Père veut remplir. L'Esprit montre à André qu'un enfant avait 5 pains et 2 poissons. Le Fils remercie le Père, puis confie aux disciples la charge de distribuer. Les disciples obéissent au Fils. Le Père multiplie la nourriture, la foule est nourrie, mission accomplie, et il y a même des restes. Jésus veut nous montrer comment le Père, le Fils et l'Esprit fonctionnent, comment ils travaillent ensemble. Parce qu'il veut que nous fassions la même chose avec lui. Il ne veut pas que nous imaginions autre chose que la réalité. Et la réalité, c'est qu'il nous a rendus participants de sa nature. Il nous rend participants, ce n'est pas notre choix de nous rendre participants. Notre choix, c'était juste de dire oui à son appel pour être sauvé. Mais aujourd'hui, on a un choix à faire aussi. C'est de dire oui pour participer lorsque le Seigneur veut nous montrer des choses à faire avec lui. Et il y a, dans cette réalité-là, quelque chose de simple, mais très profond. Cette simplicité, c'est quoi? C'est qu'en restant soumis au Fils, je peux faire la volonté du Père. Donc j'ai besoin d'être soumis au Fils, d'entendre sa voix, de repérer ce que le Seigneur me met sous les yeux, pour simplement être en collaboration avec Dieu. Parce que le Père travaille. Ce n'est pas moi qui déclenche le travail du Père. Le Père est déjà au travail. Et tout ce qu'il attend, c'est des fils et des filles pour travailler avec lui. Parce que c'est son cœur, il nous a créés pour ça, pour qu'on travaille avec lui. Et ce n'est pas quelque chose de lourd, c'est quelque chose de léger. Après cela, Jésus va encore plus loin en prenant 70 disciples et les envoie dans tous les lieux où lui devait se rendre dans son voyage à Jérusalem. Il leur donne instruction avec des paroles très précises qu'on peut voir notamment dans Luc chapitre 10, versets 8 et 9. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Puis les 70 reviennent et ils sont fous de joie. Ils vont dire cette phrase extraordinaire au verset 17 à 20. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Mais Jésus, il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais il ne s'arrête pas là. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est-à-dire que ce n'est pas de votre fait si les démons sont chassés, si vous pouvez marcher sur les scorpions ou les serpents, ce n'est pas de votre fait. Ce n'est pas de notre fait. On n'y est pour rien. Notre joie, elle est que nos noms sont inscrits dans les cieux. Et la réalité, elle va beaucoup plus loin que juste cette inscription dans les cieux. Mais nous sommes dans l'assurance que c'est lui qui fait. Donc finalement, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Si quelqu'un peut-être touche plus de personnes qu'un autre, si quelqu'un finalement du coup à son compteur dit bah, « moi j'ai guéri 12 personnes, l'autre en a guéri 2 », c'est le Seigneur qui guérit. Ce n'est pas nous. Mais nous participons à ce que le Seigneur fait. Notre joie réside dans le fait que nous ne méritons rien. Et ça, c'est important. Parce que sinon, on peut vite tomber dans l'orgueil. Très, très, très rapidement. Nous ne méritons rien. Et tout est grâce. Si nous croyons que Jésus est mort pour nous, et que nous lui avons donné notre vie, alors nous sommes ce qu'il dit que nous sommes. Nous sommes de nouvelles personnes, nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, et que voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus, par son esprit, est venu habiter en nous. Ce n'est donc plus nous qui vivons, mais c'est Jésus. C'est le Christ qui vit en nous. Et en Christ, il y a toute la plénitude de Dieu. C'est simple et tellement profond. Faisons confiance à Jésus. Lisons la parole, parlons avec notre Dieu. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants. Et quand nous sentons que son esprit nous pousse à agir, faisons-le. Et attendons-nous à le voir agir. Car lui est déjà à l'œuvre. Mais alors, agir, à quoi faire? C'est peut-être la question qu'on peut se poser. On peut se dire, mais finalement, Jésus il a fait des choses extraordinaires. Quand on regarde, il y a plein de personnes qui ont fait des choses extraordinaires. Moi, ma vie, elle est un peu ordinaire, quelque part. Fondamentalement, je vais au travail, je prends le métro, le train, je mange mon repas du midi. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire, tout le monde fait ça. Alors du coup, quelles sont ces œuvres que le Seigneur veut que nous fassions avec lui? Ces œuvres préparées d'avance, c'est quoi? Est-ce que c'est pour dans 50 ans, pour ceux qui ont 10 ans, 20 ans? Est-ce que c'est pour toujours, pour plus tard? Il y a une profondeur sur la définition de la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas forcément demain. Parce qu'on se dit éternel, c'est forcément pour toujours le futur au loin. Mais la vie éternelle, c'est maintenant. La vie éternelle, c'est aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus va dire, aujourd'hui, si tu entends ma voix. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire quelque chose avec moi. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire quelque chose avec chacun d'entre nous. Et avec nous. Ensemble. Avec chacun d'entre nous et avec nous ensemble. Selon les différentes parties du corps qu'il a jointes pour des missions particulières. Donc finalement, en fait, on peut juste se réjouir en disant « Seigneur, merci pour la vie éternelle aujourd'hui. » Ça change de l'idée de « oui, mais au moins, voilà, je sais que plus tard, je serai avec lui. » Non, tu es déjà avec lui aujourd'hui. C'est juste que la mort ne te séparera pas de lui. La mort ne sera pas la séparation finale. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et ça commence maintenant. Si je dis, Seigneur, oui, je t'accepte dans ma vie, j'accepte ton sacrifice à la croix, je suis uni à lui pour toujours, dès maintenant. Un des exemples que le Seigneur nous donne, c'est à travers une parabole. La parabole du bon samaritain. On va lire Luc chapitre 10, versets 30 à 37. On a mangé pas mal de Bible ce matin. Encore un peu, ça nous fait jamais de mal. Jésus reprit la parole, c'est en petit mais c'est très bien. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, parenthèse, samaritain, ils étaient ennemis des juifs. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. C'est un encouragement pour que nous usions de miséricorde avec ceux que le Seigneur nous confie chaque jour. Le Samaritain dans l'histoire ne savait pas qu'il allait tomber sur quelqu'un qui allait être dans le besoin. Mais son cœur était disposé. On sait que c'est une histoire que Jésus raconte, mais cette histoire, elle est là pour nous parler personnellement. Est-ce que mon cœur est disposé pour qu'aujourd'hui, le Seigneur puisse m'utiliser ? Est-ce que je suis disposé ? Est-ce que je me rends disponible ? Usons de miséricorde envers ceux que le Seigneur met sur notre route. Soyons disponibles au Saint-Esprit, qui nous montre les choses et nous donne consigne. Et soyons disposés à obéir. Alors on peut se dire, oh là là, mais c'est lourd finalement. La charge, elle est... La mission, elle est trop dure. Je ne vais jamais réussir à être tout le temps aux aguets. Attends, est-ce qu'il faut que je sois au taquet à chaque instant, à chaque seconde ? Non, le Seigneur, il nous met en garde de ne pas que ce poids soit trop lourd sur nos épaules. Il nous dit, reposez-vous en moi. On peut le voir dans Matthieu 11, versets 29 et 30. C'est-à-dire, prenez mon joug. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est-à-dire qu'en travaillant avec le Seigneur, il y a du repos. C'est du repos, ça repose. Ce n'est pas dur. Même si parfois c'est difficile, ce n'est pas quelque chose qui nous angoisse. Évidemment, nous mettons la main à la pâte, évidemment, on y va. Mais il y a du repos en le faisant. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc lorsque nous faisons les choses pour le Seigneur et que nous nous sentons fatigués, alors je ne dis pas qu'à la fin de la journée, on a besoin de se reposer, c'est normal. Je ne dis pas qu'à la fin de la semaine, on a besoin de faire une pause, un temps sabbatique, c'est normal. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prendre de vacances, ce n'est pas du tout ce qui est dit. Parce que le Seigneur lui-même nous dit de sanctifier un jour dans la semaine, et lui-même nous a permis aussi de dormir pour que nous puissions nous reposer. Mais il dit que si nous marchons avec lui, si nous écoutons ses instructions, si nous prenons son fardeau, son joug, eh bien nous aurons du repos pour nos âmes. C'est-à-dire que même si notre corps se fatigue, notre cerveau se fatigue, dans la réflexion, dans la pratique, nous serons reposés. Alors, après une bonne nuit de sommeil, nous pourrons continuer, dès le lendemain, à retrouver des forces pour faire la suite. Et notre âme sera toujours dans le repos. Il est important que nous arrêtions de croire que servir Dieu, c'est forcément faire de grandes choses, comme toutes ces fameuses personnes qui nous ont précédés, ou même ces différents exemples que nous pouvons avoir. Il est important vraiment que nous voyions l'appel du Seigneur comme quelque chose de simple et qui commence aujourd'hui. Que notre appel soit aussi pour plus tard, je ne le remets pas en question, mais notre appel commence aujourd'hui. Si tu as un appel pour combattre en faveur de la justice, ton combat commence aujourd'hui. Tu as un appel auprès des enfants, ton combat commence aujourd'hui, ton appel commence aujourd'hui. Tu as un appel pour prêcher, pour parler aux foules à l'extérieur, pour apporter la parole dans le métro, ça commence aujourd'hui. Ça commence par ceux que le Seigneur a mis sur ta route. Ça commence par tes voisins, ça commence par ta famille, ça commence par tes collègues, par tes camarades, ça commence par toutes les personnes que le Seigneur met à ta disposition, autour de toi. Finalement, c'est un encouragement parce qu'on peut se dire, Seigneur, c'est toi qui conduis ma route, c'est toi qui conduis mon chemin. Toi, tu me précèdes, Seigneur, c'est toi qui m'apportes les personnes. Aide-moi à être attentif pour que je puisse distinguer quelle est ta volonté. Finalement, on n'a pas besoin de se casser la tête. Mais on peut aussi, du coup, participer activement avec le Seigneur dans des projets plus concrets. Parfois, le Seigneur nous met à cœur des choses qui vont aller plus loin que juste un jour aujourd'hui. Certaines choses peuvent se faire immédiatement, mais certaines choses aussi peuvent prendre du temps. Et le Seigneur aussi nous apprend, dans l'obéissance, la persévérance. Parce que même si nous ne voyons pas les fruits tout de suite, ce que le Seigneur a promis, lui, va l'accomplir. Et ce n'est pas nous, nous ne sommes pas dépendants de l'accomplissement de la promesse. Mais on a vu que le Seigneur fait des miracles avec notre obéissance. Notre obéissance est un outil entre les mains du Seigneur. Parce qu'il veut être glorifié à travers nous. Aussi, avec Dieu, chaque jour est important. Avec Dieu, les choses les plus simples sont très importantes. Alors chaque jour, sachons rester simples et à son écoute. Que le Seigneur vous bénisse.
Voilà, on va... Et simplement, je vais redonner pendant quelques minutes, on en a parlé avec Gabi et Antoine, vous savez que le slogan de notre église, c'est quoi ? En Christ, une famille en action. Et on bénit Dieu hein, pour les différents enseignements, et je sais que Antoine a à cœur voilà, de toute la notion de demeurer en Christ, hein, on a entendu ce message, cet enseignement concernant être enraciné et fondé en lui. Il y a aussi Gabi qui, au travers de ce grâce prophétique, nous a parlé justement de vivre que ces vérités deviennent des réalités. Hein. Et la difficulté que nous avons, c'est que après de très bons enseignements, c'est qu'on a du mal à mettre les choses en pratique. Et donc ce slogan « En Christ, une famille en action », on veut le vivre, ça devienne une réalité. En Christ, une famille, cette notion de la communauté, et il y a aussi donc cette notion de la ville, hein, c'est-à-dire dans des actions concrètes. Amen. Et donc, c'est pourquoi on a pu, avec Pierre-Antoine, Antoine et Gabi et moi, on a pu partager sur ce que l'intention de Dieu, c'est que on va vous présenter un projet tout à fait concret. Et ce projet s'appelle Projet personnel de semence. Amen. Et si vous dites, oula, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Vous avez sur l'éditorial, vous avez exactement ce que c'est. Et sachez une chose, c'est que nous voudrions aussi vous accompagner dans ce que Dieu suscite, dans ce que le Père suscite en vous par rapport à des semences. Et donc, Pierre-Antoine va expliquer maintenant, je crois que tu as un PowerPoint ou quoi. Voilà, donc sachez que tout cela s'est noté sur la lettre de nouvelles de février, projet personnel de semences.
C'est super, c'est la mise en pratique, comme disait Alain, c'est la mise en pratique. C'est en 2023, on veut passer à la pratique. On a beaucoup appris, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a transmises. Et aujourd'hui, en fait, on veut ensemble, en famille, passer à la pratique. On veut donc passer à la pratique individuellement, mais aussi, en fait, on veut pouvoir se soutenir mutuellement, collectivement. Notre but, c'est de refléter Christ et manifester le cœur du Père personnellement. C'est que chacun de nous, alors à qui ça s'adresse, hein, ça s'adresse à tous, de 6-7 ans jusqu'à 117 ans. Ça va ? Ça va. On veut agir là où le Père travaille, en collaboration avec lui. On veut également grandir individuellement dans nos responsabilités. On veut prendre conscience de ce que le Seigneur a placé devant nous, en nous, autour de nous. Et on veut vivre l'unité du corps dans la prière. Donc, c'est trois étapes, identifier et planifier, partager et prier et accompagner. Alors, pour la première étape, ça c'est finalement ce qui nous attend tous. On va, avec le Seigneur, c'est important, repérer un de nos champs. On a différents champs sur lesquels le Seigneur est en train de travailler avec nous, mais il y en a un peut-être en particulier que le Seigneur va peut-être mettre en évidence. Alors les champs, c'est la famille, le travail, l'école, l'église, les voisins, les amis, etc. Tous les champs qui sont à notre disposition, là où le Seigneur nous a placés, il nous a mis quelque part. Donc identifions avec le Seigneur un de nos champs, identifions avec le Seigneur un besoin, recevons une solution par la prière. Seigneur, que veux-tu faire dans cette situation, et ensuite écrivons-la, écrivons le projet, écrivons ce que le Seigneur veut faire avec nous, et mettons en place ce projet. Finalement, Seigneur, c'est quelle est ma part ? Et on va définir aussi, chacun définira, un délai d'accomplissement entre 4 et 6 mois. Ça permet aussi de cadrer un petit peu, ça peut être plus court, ça peut être un peu plus long, mais l'important c'est qu'on se mette en marche, chacun individuellement. Il y a ce passage dans Galates, que vous avez peut-être déjà dû lire dans la lettre de Nouvelles. C'est « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. » Alors là, on peut se dire « Mais c'est quoi ces projets? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Encore une fois, mon quotidien est un peu banal. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? On peut voir, parmi ces projets, il y a différents exemples qu'on peut voir. Ça peut être organiser un barbecue avec mes voisins où je peux partager ma foi et mon amour pour eux. Ça peut être mener un groupe d'écoute et de prière avec des personnes présentes dans mon lieu de travail, avec les chrétiens et ceux qui sont ouverts, ou simplement avec ceux qui ont besoin d'aide. Ça peut être aussi aider mes collègues à se réconcilier alors qu'ils ne se supportent pas. Il y a tellement de choses devant nous. Un autre exemple, organiser une soirée de louanges et de témoignages pour mes potes de lycée qui ne connaissent pas le Seigneur, ou aider un frère à devenir stable financièrement alors qu'il a du mal à gérer ses finances, ou réunir ma famille autour d'un dîner alors qu'ils ne se parlent plus depuis 20 ans. Il y a énormément de choses que le Seigneur veut faire avec nous. Énormément. Mais ça commence déjà par une. Eh bien, c'est identifions cette une chose que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous. Réjouissons-nous aussi du coup de ce que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous, car personne n'est à mettre de côté. personne ne peut se dire « Oui, mais ce n'est pas pour moi. » Non, parce que le Seigneur nous a tous appelés. Donc s'il nous a appelés, il a des choses à faire avec nous. Ensuite, partager, c'est un point qui va être très important, puisqu'il est évident que nous rencontrerons des difficultés. Difficulté ne veut pas dire que Dieu nous abandonne. Mais difficulté veut dire « Ah, le Seigneur veut que nous soyons unis les uns les autres pour nous soutenir mutuellement. » Alors, il est important de partager ces projets personnels de semences en groupe, que nous ne soyons pas seuls. Parce qu'en groupe, nous pourrons ensuite, du coup, être entourés, être accompagnés. Les uns les autres vont pouvoir, du coup, prier pour nous. Il n'y a rien de mieux que des personnes qui prient pour la réussite de nos projets personnels. Et rien de mieux pour nous de prier que de prier pour les projets des autres, de nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Et il y a différents lieux de partage qui existent déjà. Il y a des maisonnées, dont beaucoup d'entre nous, du coup, sont présents dans ces maisonnées, des groupes de prière. Il y a un groupe de jeunes, il y a un pôle social, un groupe de responsables. Il y a également la famille, très important. Comme ce projet s'adresse évidemment aussi aux enfants, eh bien, la famille est aussi un lieu où nous pouvons encourager, nous pouvons prier, nous pouvons permettre à chacun de pouvoir partager dans ce groupe. Et pour ceux qui n'en ont pas, la question qui se pose, « Ah, mais moi, j'en ai pas », eh bien, soit on peut en créer un ou en rejoindre un, il n'y a pas de problème. L'idée est simplement de se dire, « Bon, ben, ok, Seigneur, où est-ce que tu m'appelles? Dans quel groupe, finalement, est-ce que je pourrais m'inscrire ?» Et on pourrait être étonné de voir que le Seigneur, finalement, a déjà préparé un groupe ou est en train de préparer aussi un groupe. On peut même voir, en fait, finalement, qu'il y a même des groupes qui sont créés il y a assez récemment et que, finalement, peut-être que le Seigneur veut faire quelque chose avec ce groupe. Qui peut savoir? C'est dans nos cœurs que le Seigneur se révèle. Prier et accompagner. Ensemble, témoins des projets des autres, nous pouvons donc prier ensemble et vivre l'unité. Lorsqu'on se détache de nos problèmes, lorsqu'on fait attention finalement du coup aux problèmes des autres, nous vivons l'amour comme le Seigneur veut que nous le vivions. Et nous pouvons finalement du coup, nous détachant de nous, prier pour des objectifs précis, les uns pour les autres. Et nous pouvons nous attendre à ce que le Seigneur réponde. Aussi, le rôle de chacun dans chaque groupe, c'est d'accompagner l'autre. Finalement, je suis responsable de mon frère et de ma sœur. C'est-à-dire que devant Dieu, je suis responsable dans la prière. La réussite de son projet, c'est aussi la mienne avec le Seigneur. Donc c'est un encouragement, nous allons continuer à vous encourager pour tout ça. Ne sentez pas encore que quelque chose est trop lourd, c'est notre vision que nous partageons ensemble pour 2023. La vision pour l'Église, c'est que nous marchions ensemble dans les projets que le Seigneur a voulus individuellement. Et nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur. Nous voulons voir le Seigneur agir dans nos vies, à travers nos vies, parmi les personnes que le Seigneur nous a confiées. Il y a des choses extraordinaires que le Seigneur va faire. Alors je me réjouis déjà pour tous les projets qu'il est en train de mettre sur nos cœurs. Soyez bénis. Et j'aimerais en fait du coup que nous puissions prendre un temps pour prier pour tout ça, pour prier pour tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Et ce n'est pas juste moi qui vais prier, on va avoir un temps de silence. Et ceux qui veulent, n'hésitez pas à ouvrir votre bouche et à prier.